livre plein les oreilles. Ah, mon Dieu, que cela fait du bien de réentendre cette petite musique-là qui m'a tellement manqué. Vous m'avez manqué aussi. Et me voici revenu en direct ou presque en direct pour vous présenter ce voyage en littérature sonore d'ici et d'ailleurs, qu'est l'émission des livres plein les oreilles. D'ailleurs, il faudrait bien que je perde l'habitude d'appeler ça une émission parce que j'ai compris durant tout ce laps de temps au cours duquel j'ai été absente des ondes ici à Canalem et en balado, en podcast, que c'est comme ça que vous nous écoutiez et que vous écoutiez cette émission le plus, c'est-à-dire en balado, en podcast, émission que vous pouvez entendre sur à peu près toutes les plateformes qui existent et qui présentent des balados comme celui-ci. Alors que ce soit YouTube, Spotify, l'appli d'Apple, vous allez trouver là des livres plein les oreilles très facilement. Celles d'hier, les émissions d'hier, d'avant-hier, donc de la saison dernière, et puis celles d'aujourd'hui et celles de demain. Vous pouvez aussi entendre ça, bien évidemment, sur la page de Canalem qui produit ce podcast. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans différentes régions du Québec. Pourquoi ? Parce que je n'ai quitté ma terrasse que pour aller me perdre dans certains coins du Québec cet été et au début de l'automne. Par exemple, je suis allée en Mauricie. Pardon, Jean de la Mauricie qui m'écoutait, même si je suis ici depuis 37 ans, je n'avais eu que très peu l'occasion d'y passer du temps et de m'y arrêter et de sillonner vos routes. Et j'ai craqué complètement sur cette région. Et bon, évidemment, on pense tout de suite à Saint-Élie-de-Caxton parce que c'est vrai que c'en est le phare, mais tout ce qu'il y a autour également. Alors, allez, c'est parti. On va parler de livres audio et d'extraits dans la prochaine heure. Vous ai-je dit que je m'appelle Clotilde Seille? On ne sait jamais, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce balado, ce podcast. Et il y en a encore beaucoup trop qui ne le connaissent pas, alors faites circuler, vous seriez extrêmement gentils. Alors oui, la Mauricie, j'ai adoré cette région depuis le temps que je voulais y aller à Saint-Élie-de-Caxton, pas uniquement pour Fred Pellerin, même s'il est indissociable de ce bled, mais j'y ai beaucoup d'amis aussi qui sont soit en résidence, soit en chalet. Alors il était grand temps que je fasse le détour. Et imaginez-vous que je suis arrivé là en plein Noël du campeur. Flamant rose, sapin rose et guirlande rose à tous les balcons. Et puis des cow-boys qui chantent à la messe. Et puis le chemin de croix. Et puis un moment magique, vous dis-je. Comme les moments d'ailleurs que Fred Pellerin nous offre dans ses contes depuis bien des lustres maintenant. Voici le résumé qu'on peut lire sur le catalogue Nara dans lequel vous retrouverez quelques-uns des livres audio de Fred Pellerin. Les histoires de Fred nous amènent à la rencontre des personnages du Caxton légendaire et nous relance dans les rires, la poésie et les grandes réflexions. Cette fois-ci, c'est entre les rayons du magasin général qu'il nous conduit, le magasin général de Toussaint Brodeur qui faisait bénéfice de tout. On parle là du livre « La descente aux affaires ». En voici un extrait. Ce qui est formidable, c'est que non seulement ça a été écrit par Fred Pellerin, mais ça, c'est lu aussi par Fred Pellerin.
À Saint-Élie-de-Caxton, ils ont arrêté de mesurer la force des hommes à la grandeur de leur ombre. À partir de ce jour-là, ils ont choisi de se fier au petit côté de clarté qui émanait de chaque personne. Écoutez-moi, m'a vous conter une histoire de mensonge. Ça répond. Ça répond. j'ai dit, ils vont venir, mais là il était trop tard. Fait que je vais le... On recommence. Ça répond. Je l'explique. D'habitude, je l'explique avant. Mais là, t'écoutais. Les gens qui écoutent, là, j'y respecte. Fait que j'ai dit, je l'explique-tu, puis pas. Bah, tu sais, j'ai dit, de la merde. M'a l'essayé, tu sais. Alors, comment? J'ai pas de rancune. OK, je recommence. Montréal, attention. C'est pas obligé de répondre, mais ça sera le fun. Si tu réponds pas, moi, te le dire, il y a des bouts, là. De rien, là. C'est gênant pour tout le monde. OK? Attention.
Écoutez-moi, moi vous conter une histoire de mensonge. Écoutez-moi, moi vous conter. Hey! S'il y a un mot de vérité dedans, je veux que l'on m'y parle. Laissez-moi aller, allez, ben laissez-moi aller jouer. Laissez-moi.
Tu ferais moins un café, pas de lait? Ah, parfait. Fait que là, tu sais, ça revient. Il se renfarge dans le curé. Le curé dit, mais vous savez que le comité de pastoral vend aussi des chapelets à seulement 10 cents. Et Toussaint dit, allez l'acheter au comité de pastoral, votre chapelet. Il rentre derrière le comptoir, part la cafeuse, il sert une cliente qui était là, qui était la voisine, la bonne femme Gina, sa voisine, la mère des enfants. Ça, c'est un projet pilote du gouvernement, cette bonne femme-là. Il avait greffé des utérus. Je crois qu'il avait 50 poches montées en parallèle dans Beden. Écoute, il y avait de la trompe de Fallope là-dessus, là. T'aurais pu faire un pont de corde aller-retour la lune en Fallope. Okay. 473 enfants. Il a fallu qu'elle ait 473 enfants avoir le droit de la d'avoir le droit de la subvention là, pour la ligature de la trompe. Et puis finalement, c'est le cercle des fermières de Saint-Bernard-Bénard qui a fait sa ligature. Ils faisaient des macramés, eux autres, là. Écoute, ils ont fait des nœuds là-dedans. Fait que là, elle venait acheter des fruits pour ses enfants. T'sais, parce que Toussaint venait d'afficher sur son magasin « Arrivage de cerises noires ». Là, elle se tient au comptoir avec un sac de cerises. Elle se plaint. Elle dit « Vos cerises noires sont rouges. » Toussaint dit « C'est parce qu'elles sont encore vertes. » Il part avec le café, il se renferme dans le curé. Le curé dit, le problème, c'est que le comité de pastoral n'a plus aucun chapelet disponible à la vente. Mais Toussaint dit, je fais la même affaire, moi tout, quand je n'ai plus à vendre, je l'ai fait à 10 cents, monsieur curé.
La seule race de mouche pour laquelle le monde payera, pour laquelle les municipalités investiraient des milliers de dollars pour remplir les espaces verts, en redéposer des étincelles dans les yeux des enfants. La première mouche à feu, fabriquée main, à Saint-Denis-Caxton, Montréal. Mettez ça dans vos pipes. Mettez ça dans vos pipes, vous y avez fumé pendant l'entraque. Lâchez-moi pas. On revient dans 15 minutes avec la suite de la marche à main. Oh! Puis laissez-moi aller, aller, mais laissez-moi aller jouer. Laissez-moi aller, aller, mais laissez-moi aller jouer.
Tu sais, quand on appelle ça un trésor national, puis que t'écoutes ça, ben c'est un trésor national, Fred Pellerin. Bon, faut peut-être pas trop lui dire, parce que j'aurais peur que sa tête enfle, mais enfin, de toute façon, maintenant, il doit bien le savoir, le petit bonhomme. Hein? Moi, à chaque fois, il est tellement drôle. Bon, allez, on va... Ça vous part un balado. Alors, on va poursuivre en Mauricie avec un autre incontournable de la vie de la Mauricie et de la vie de notre Félix, Félix Leclerc, qui a 12 ans, vit au cœur de cette région. Dans cette région où... Et Félix a l'identité québécoise déjà dans le cœur. Et puis la vie du jeune Félix devenue, vous savez que c'est devenu un film ça, parce que là je vous parle de Pieds nus dans l'aube, eh bien on va découvrir la vie de ce jeune Félix qui fait dans ce livre, devenu un film tourné par Francis Leclerc, le fils de Félix, qui fait l'apprentissage de la vie. Et c'est absolument exceptionnel. C'est lu pour Audio Radio Canada, Pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc. C'est lu par Théodore Pellerin. Tiens, un autre Pellerin.
Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à 3 étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Coiffée de bardeaux, offrant asile aux grives sous ses pignons, elle ressemblait elle-même à un vieux nid juché dans le silence. De billets avec les vents du nord, admirablement composés avec la nature. On pouvait la prendre aussi, vu du chemin, pour un immense caillou de grève. C'était en vérité une têtue, buveuse de tempêtes et de crépuscules, décidée à mourir de vieillesse comme les deux hommes, ses voisins. Elle tournait carrément le dos à la population et à la ville pour ne pas voir le quartier neuf où poussaient de ses petites demeures éclatantes, fragiles comme des champignons. Face à la vallée, boulevard de la Fauve-Saint-Maurice, notre maison fixait comme en extase la lointaine caravane de Mont-Bleu là-bas, sur lesquels se frappaient des troupeaux de nuages et les vieux engoulevents qui n'avaient pu sauter. Rouille sur le flanc, noir sur le toit, blanc autour des fenêtres, notre lourd berceau se tenait écrasé sur un gros solage de ciment, rentré dans la terre comme une ancre de bateau pour bien nous tenir, car nous étions 11 enfants à bord, turbulents et criards, peureux comme des poussins. Une grande cheminée de pierre des champs, robuste, râpeuse, prise dans le mortier lissé à la truelle, commençait dans la cave près des fournaises ventrues, par-dessus la petite porte à courant d'air où, en mettant un miroir, on découvrait les étoiles. Comme un moyeu de roue, elle passait entre les étages en distribuant des ronds de chaleur, puis elle débouchait à l'extérieur, raide comme une sentinelle à panache, et fumait, cheveux au vent, près d'une échelle grise, couchée. L'échelle grise et la petite porte noire de suie n'étaient pas pour l'usage des hommes, nous avait-on appris, mais pour un vieillard en rouge qui, l'hiver, sautait d'un toit à l'autre derrière ses rênes harnachées de blanc. De bas en haut, de haut en bas, notre chez-nous était habité. Par nous au centre, comme dans le cœur d'un fruit. Dans les bords, par nos parents. Dans la cave et la tête, par des hommes superbes et muets, coupeurs d'arbres de leur métier. Sur les murs, les planchers, entre les poutres, sous l'escalier, près des tapis, dans le creux des abat-jours, vivaient les lutins. Le bonhomme 7 heures, les fées, les éclats de chant, l'ustu cru, les échos de jeu. Dans les veines de la maison courait la poésie. Nous avions la chaise pour nous bercer, le banc pour faire la prière, le canapé pour pleurer, l'escalier à deux marches pour jouer au train. Aussi, de ces jouets savants que nous n'osions toucher. Telle cette bête à deux fils, au long bec, sonnerie au front, qui conversait avec les grandes personnes. Un prélard fleuri devenait un parterre. Un crochet, c'était l'écrou pour rouler les câbles de nos bateaux imaginaires. Les escaliers servaient de glissoire, les tuyaux le long du mur, de mâts, et les fauteuils, de scènes où nous apprenions avec les chapeaux, les gants et les paletots des aînés, les grimaces que nous faisons aujourd'hui sans rire. Le rez-de-chaussée était coupé sur la longueur par un vaste corridor. Quelques chaises à barreaux faisaient cercle dans un coin. Au-dessus, une rangée de crochets en point d'interrogation disparaissait sous les vêtements des visiteurs ou clients qui venaient consulter papa, le gros commerçant de bois de la vallée. Se touchaient le salon et une chambre pour les étrangers. Le premier, très modeste avec son piano noir, ses rideaux en filet, une bergère bleue, quelques fauteuils vieux style capitonné de satin, dont une berçante à ressort vêtue comme une dame des siècles passés avec ses glands au bas de sa robe. Ses cadres à bordure dorée égayaient nos vies, comme un dimanche.
Fils de montagne et de forêt, en territoire de survenants, au fil des labours, des rivières, un sentier vers le Saint-Laurent. Sa voix de terre et de sillon, comme un printemps, comme une amie. Ses yeux de mer et d'horizon sèment l'espoir d'une patrie. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours le vieux continent l'appelle. Au loin, on entend son écho, des chants jours sont comme des étincelles. Un soir d'hiver avec Bozo. Le conte du mas encore hier. Dans nos maisons, la peur retient. Le loup lui quitte son repère. Sous l'étendard, il serre le poing. Pour supporter le difficile et la colère de la nouvelle, il y a toujours le tour de l'île. Pour supporter le difficile et la colère de la nouvelle, il y a toujours le tour de l'île. Le tour de l'île. Le petit bonheur est orphelin. Pour supporter le difficile et la colère de l'alouette, il y a toujours le tour de l'île. Pour supporter le difficile et la colère de l'alouette, il y a toujours le tour de l'île. Pour supporter le difficile et la colère de l'alouette, il y a toujours le tour de l'île. Le tour de l'île.
Voilà, le plateau est tendu par Richard Séguin pour nous faire passer le pont et pour arriver jusqu'à l'île d'Orléans, si chère à Félix et si chère à mon cœur d'ailleurs. L'île d'Orléans est un des premiers endroits que j'ai visité à l'époque, même bien avant de m'installer, donc 5 ans avant m'installer. Je parle de ça donc il y a 42 ans. Tiens, 42 000 choses tranquilles, ça fait 42 ans que je passais le pont pour la première fois et que je suis littéralement tombée en amour avec ce lieu. Comme si je l'avais toujours connu, comme si j'y avais déjà vécu. Allez savoir, hein ? Allez savoir. Pas de livre audio, du moins mes recherches sont restées infructueuses, je vais réussir à le dire, en ce qui concerne l'île d'Orléans. Vous qui écoutez, tiens, ce balado en ce moment, si vous en connaissez un, même si ce n'est pas un livre audio, un livre dont l'action se situe à l'île d'Orléans. J'aimerais tellement en prendre connaissance et en parler à cette émission des livres plein les oreilles. Si vous voulez m'en parler, c'est facile, l'émission des livres plein les oreilles est sur Facebook. Elle a sa page, donc vous tapez « Des livres plein les oreilles » et vous allez arriver sur ma page Facebook. Et vous pouvez faire une demande d'amitié et je vais vous accepter avec évidemment très grand plaisir. Moi, j'ai toujours vu, chaque fois que je fais le tour de l'île, et c'est au moins 2 fois, voire 3 fois par année, j'ai toujours vu le tour de l'île comme un grand livre ouvert sur les bordures, comme disait Félix, c'est comme il le chantait. D'ailleurs, avant qu'on l'entende chanter, oui, parce qu'on va l'entendre chanter, cette chanson, le tour de l'île, Félix, parce que pour moi, c'est un livre audio, c'est le plus beau livre audio qui existe sur l'île d'Orléans. Avant de l'entendre, on va entendre Félix parler. Félix Leclerc qui répond, vous allez l'entendre, à un enfant très curieux. Allez, on écoute.
Bonjour Félix.
Salut.
Est-ce qu'il y a une raison spéciale qui t'a fait choisir de venir t'installer à l'île d'Orléans?
Oh, il y a bien plus qu'une raison. C'est pour moi qui a décidé, c'est Lee Leclerc. En 1680, Jean Leclerc et Marie Blanquet de Normandie, Dieppe, ont fait une traversée, l'Atlantique, 90 jours, pour venir s'installer à l'île d'Orléans.
Puis toi, t'es venu ici...
Moi, je suis venu ici la première fois en 1945, sans savoir que les Leclerc étaient venus s'installer ici. Mais j'ai appris une chose pire que ça aussi, il y a quelques mois, gérant de la Caisse populaire qui fait une étude sur les généalogies des gens d'ici. Ouais. Et puis, il m'a dit que le Leclerc en question, Jean Leclerc de 1680, est venu s'installer sur mon lot ici.
C'était
ici même, sur
le lot 73, je pense, ici, là. Et puis, c'était la forêt. Et c'est le premier qui a défriché, c'est un Leclerc, ici. Fait qu'imaginez-vous l'atavisme, si ça joue quand même. Les ancêtres, je sais pas par quel...
Mais l'île, est-ce qu'elle a un cachet particulier pour toi? Est-ce qu'il y a une valeur sentimentale?
Bien, il y a d'abord ce côté ancêtre, là, ouais. Pendant trois siècles, que la souche des Leclerc est partie d'ici pour aller partout dans la province.
Oui.
Mais j'ai eu le coup de foudre en le voyant sans savoir ça. En 1945, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit « Voilà l'endroit où je voudrais mourir, je voudrais vivre et mourir. »
Été, hiver, il y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. L'île, c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose, comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous, les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai. Écoute encore. Clocher pointu. Et dans les fonds des pâturages, de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre. Imaginez. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça, l'île d'Orléans. Notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie l'heure est venue, si t'as compris.
De la Mauricie à l'île d'Orléans, nous nous sommes promenés en mots et en musique. Cette version du Tour de l'île a été orchestrée par François Dompierre. C'est certainement, en tout cas pour moi, l'une des plus belles et j'étais incapable de la couper. Vous ne m'en voudrez pas, bien sûr. Oh, mais que vois-je ? Déjà des réponses à ma question sur les livres. Alors moi, mais Ignard, de chez Ignard. Alors oui, je ne sais pas quelle sorte de recherche j'ai faite, mais j'apprends de la part d'un auditeur. Merci beaucoup. Il s'appelle Mathieu. Mathieu nous dit qu'il a passé toute son enfance à l'île d'Orléans. Et il me parle, entre autres, de deux livres. « Les Inconnus de l'île d'Orléans » de Anne-Françoise ou de Sonia... Ah oui, alors Anne-Françoise, ça c'est le tome 1 de Sonia Alain. Et il y a aussi un tome 2 de la même série. Et ce sera cette fois-ci Anceline, des gens qui fuient la France révolutionnaire pour s'établir à l'île d'Orléans. Alors on suit la traversée depuis la France. Et puis aussi un livre de Jacques Poulain, « La traduction est une histoire d'amour ». Et là encore, la toile de fond, c'est l'île d'Orléans. Magnifique. Merci beaucoup Mathieu pour ces informations. Et en plus, apparemment, il y en aurait d'autres et Mathieu va me le faire savoir via la page Facebook de Des Livres Plein les Oreilles. C'est Clotilde Say, je vous retrouve dans quelques minutes. On va poursuivre le voyage, on va monter vers le nord. À l'émission, plutôt au balado, Des Livres Plein les Oreilles. Et on poursuit le voyage, toujours au Québec, bien sûr, on monte vers le nord. Paul aussi, d'ailleurs, de Michel Rabagliati. En chemin, on va rendre hommage à VLB via les mots de Dany Laferrière à son égard et puis via un court extrait d'un livre, d'un essai de VLB qui s'appelle Monsieur Melville, Victor Lévy-Beaulieu, bien sûr. Je vais vous en lire un extrait moi-même parce que, hélas, les livres de Victor Lévy-Beaulieu ne sont toujours pas enregistrés. Un jour peut-être, mais lui le voulait-il après tout. Au bout de la route, la même que celle prise par les Acadiens qui revenaient au pays, on entendra aussi un extrait de Pélagie la Charrette, un extrait lu par Antonine Maillet elle-même, un régal. Paul dans le Nord, écrit par Michel Rabagliati, c'est lu par Pierre-Luc Funk dans le rôle de Paul Jeune sur Audio Radio Canada. Nous sommes en été 1976, Paul a 16 ans, il ne rêve que d'une chose, enfourcher une moto, sa Kawasaki KE100 pour fuir son quotidien et des parents qu'il trouve un peu envahissants. Il voudrait partir avec un nouvel ami qu'il a rencontré à la polyvalente, qui s'appelle Timarc, du moins c'est comme ça qu'il l'appelle. elle. Et, mais avant de pouvoir partir, eh bien, il faudra traverser cette période difficile qu'est l'adolescence. Il va la traverser, Paul, avec... Il va essayer de la traverser avec légèreté, mais ce n'est pas évident. Pour ce faire, il va accumuler les voyages en autostop, les soirées arrosées entre copains, les expériences nouvelles, bien sûr, le tout sur fond de Jeux olympiques, de musique de Peter Frampton et de beaux dommages. Dans l'extrait qu'on va entendre, il est englué au sein de la famille, une famille, j'allais dire dysfonctionnelle, pas vraiment, une famille normale avec toutes ses dysfonctions, quoi. donc, je vous le disais, les voix de Pierre-Luc Funk, Denis Bernard aussi, et d'autres voix non identifiées, c'est dommage, hein, par le site d'audio de Radio-Canada. Moi, je parierais sur Claude Legault et Diane Lavallée, mais bon. Ce sont mes oreilles à moi. Vous écouterez, puis vous me direz ce que vous en pensez. Extrait de Paul dans le Nord.
Chapitre 1. Saint-Sauveur, été 75.
Allô, viens donc m'aider avec les planches ici, deux minutes.
Mon amant est à côté.
Ta main est occupée dans la teinture.
Oh, mais je t'occupais moi aussi, là.
Bordel, Paul, t'as rien à foutre, je te demande un petit service, là.
Robert!
J'ai pas envie, bon!
Hey, reviens ici! C'est ça, va te cacher dans ta cabane!
Mais qui est pas, Robert?
Mais merde, Aline, franchement, là, il pourrait aider un peu, là. Il est là, les doigts dans le nez.
Mais oui, mais...
C'est rien qu'un petit bébé gâté, paresseux et impoli.
C'est un adolescent, Robert. Il est en crise d'adolescence. J'ai lu dans un magazine quelque part, c'est une affaire de cellules. Non, d'hormones.
Hey, cellules, mon œil, là. Il invente n'importe quoi pour les excuser, là. C'est de la paresse pure et simple.
Rappelle-toi quand t'avais son âge?
Quand j'avais son âge, j'étais déjà apprenti dans une imprimerie puis je versais une pension à ma mère, moi, madame.
Ouais, mais c'était en quoi, ça? En 1945? Les temps ont changé, là. Les jeunes se cherchent plus. Si tu le payais un peu pour t'aider, peut-être...
Non, oui. Ah non, oublie ça. On en a déjà parlé. Un père ne paie pas son fils pour avoir son aide. C'est totalement contre mes principes. Il doit m'aider parce que j'y demande. Un point, c'est tout. Ça serait bien le bout.
Au fond, ce qui te choque, c'est que ça se passe pas comme tu l'avais prévu, hein?
Peut-être. C'est vrai que j'avais imaginé finir le chalet avec lui les fins de semaine. Et apprendre un peu à mettre les outils, je sais pas.
Ça va, les bricoleurs? On a entendu des cris.
C'est rien, Denise. C'est Paul qui nous fait la baboune pour faire changement.
Fais-le travailler un peu, Robert. Ça lui changera les idées.
Hein, oui.
C'est Pat qui avait bricolé cette cabane-là il y a longtemps pour ma sœur et moi, quand on venait passer nos vacances d'été ici, dans le chalet de ma grand-mère à côté.
Papa, on a eu une super idée. On aimerait ça avoir une cabane en haut. Tu sais, sur la grosse roche plate.
C'est la grosse roche plate.
S'il vous plaît, papa.
Il avait ramassé de vieux matériaux et il nous avait fait ça en quelques heures. Pat a toujours été habile de ses mains.
Avec ses panneaux ondulés transparents, vous serez pas trop dans le noir.
Ouais. Hey, super, Pat.
Prends ce côté-ci.
Et moi, celui-là.
Amusez-vous bien.
On a joué dedans pendant un certain temps, puis on s'en est tanné. En y retournant encore de temps en temps, pour être tranquille.
Le célèbre compositeur soviétique Dmitri Shostakovich est décédé dans un hôpital de Moscou des suites d'une attaque cardiaque.
Les soirées au chalet en 1975, ça se passait aussi devant la télévision.
Qui qualifiait sa musique de bourgeoise et de formaliste, Shostakovich fut 5 fois lauréat du prix Lénine et en 1954, il reçut le titre d'artiste du peuple.
Il y a pas mal de choses qui ont bougé cette année-là.
Shostakovich composa 15 symphonies, plusieurs concertos et...
En ville, on a quitté Rosemont pour Saint-Léonard, un quartier où je connais personne. J'haïs ça. Mainte heureuse. Pas enfin accepté de s'éloigner de sa mère et de sa tante qui vivaient pratiquement avec nous autres. Ma sœur Cathy en a profité pour partir de son côté en appartement avec Ivan, son nouvel amoureux. Ils ont acheté un chien, un berger allemand. C'est cave, mais même si on se chicanait tout le temps, Cathy, elle me manque.
Mon petit Chris, redonne-moi ça tout de suite!
Quoi, hein? Ton journal intime? Tu parles de Richard Brousseau? Wouhou!
Main est retournée sur le marché du travail. Elle s'est trouvée une job dans une usine de souliers pour femmes. Pa, lui, il travaille bien fort. Ils ont installé un nouveau système de photocomposition à son atelier. C'est lui qui gère tout ça. Il m'en parle des fois, ça a l'air de le passionner.
Vitesse. De plus, le Computer 88, il possède 2 supports de fonte, plus 8 lentilles, ce qui donne la possibilité de sortir un caractère de la même famille de 6 à 72 points. Pas attention, quatre styles différents, romain, bold, italique.
L'an dernier, on a acheté un terrain à Saint-Sauveur. En fait, c'est ma grand-mère et ma grande-tante qui nous l'ont donné pour qu'on se construise à côté d'eux autres. Maman a eu de la misère à avaler ce cadeau-là, mais comme père a fait son effort en ville, elle a fini par accepter l'idée du chalet.
On les verra juste les week-ends. C'est pas comme s'ils étaient avec nous autres, là. Ils ont leur chalet.
OK, OK, Robert. Mais n'empêche qu'elles se sont encore une fois arrangées pour que ça se passe à leur goût. J'espère qu'on le regrettera pas.
Moi, de mon côté, j'attends le début de l'école en travaillant la semaine avec mon oncle Rénal qui a quelques contrats de paysagement. Je rêve de m'acheter une moto l'été prochain quand je vais avoir 16 ans. Il me manque encore pas mal d'argent pour y arriver, puis pas veut pas me donner une maudite scène. T'as vu, ta gang qui me dit.
Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Cette chanson scotch, je suis plus capable.
Paul dans le Nord, évidemment, de M. Michel Rabagliati. Vous trouverez ce livre audio sur Audio Radio Canada. L'autre écrivain québécois, par adoption, que j'ai voulu saluer, c'est Dany Laferrière, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une plume étrangère pour parler du pays qu'elle habite et que nous habitons. Et quelle plume, quand même. Dany Laferrière, dans L'énigme du retour, paru en 2009, évoque son pays, Haïti, bien sûr, où il revient après le décès de son père. Mais il y a aussi beaucoup question de ce Québec dans lequel il vit et d'une certaine route qui conduit chez un certain Victor Lévy Beaulieu.
J'ai perdu tous mes repères. La neige a tout recouvert et la glace a brûlé les odeurs. Le règne de l'hiver. Seul l'habitant pourrait trouver ici son chemin. Un gros camion d'un jaune éclatant me frôle. Le chauffeur, tout heureux de croiser enfin quelqu'un sur son chemin, klaxonne à tue-tête. Il file vers le sud. Je continue vers ce nord lumineux qui m'aveugle et m'exalte à la fois. Je sais qu'au bout de cette route, un barbu plein de fureur et de douceur, au milieu d'une meute de chiens, tente d'écrire le grand roman américain. Terré dans ce village endormi de trois pistoles au bord d'un fleuve gelé, il est le seul aujourd'hui qui sache danser avec les fantômes, les fous et les morts. Cette lumière bleutée, rasant le fleuve, m'aspire d'un seul souffle. La voiture fait une embardée. Je reprends le contrôle juste à temps. Mourir dans la beauté des choses n'est pas donné au petit bourgeois que je suis. Je suis conscient d'être dans un monde à l'opposé du mien. Le feu du sud, croisant la glace du nord, fait une mer tempérée de larmes. Quand la route est droite comme ça, la glace des deux côtés et aucun nuage qui permet de se repérer dans ce ciel de midi d'un bleu si uni, je touche à l'infini. Nous sommes bien chez les Nordiques qui boivent à perdre la tête en dansant une folle gigue. Ils lancent des obscénités vers le ciel, tout étonnés de se découvrir seuls sur une si grande étendue de glace. L'impression de conduire dans un de ces tableaux bon marché accrochés au-dessus de la cheminée, paysage à l'intérieur de paysage. Tout au bout du chemin de terre, flotte, sans que ses pieds touchent le sol, cette petite fille aux cheveux noirs et à la robe jaune fièvre, la même qui occupe mes songes depuis l'été de mes 10 ans. Un coup d'œil sur le tableau de bord, pour voir ce qu'il reste de gasoline. La moindre panne sur cette route équivaut à une mort certaine. Le froid, magnanime, engourdit avant de tuer. Les chiens se battant entre eux sous la table, les chats jouant avec leur ombre, le petit cabri broutant la moquette, le maître de maison est parti dans les bois pour la journée, m'a dit la vieille cuisinière. Je me retourne en franchissant la porte Vous voir les chats faire un sort à ce gros manuscrit tombé de l'étagère. Le sourire indulgent de la cuisinière semble dire qu'ici, les animaux passent avant la littérature.
Ah, cette voix, hein, celle de Dany Laferrière, donc, qui part à la recherche de son ami et surtout de son idole littéraire, qui était Victor Lévy-Beaulieu, hein, qui est décédé il y a maintenant quelques mois. J'étais tellement désolée de ne pas pouvoir lui rendre un plus grand hommage, carrément un hommage à des livres pleins les oreilles, mais c'est ça, c'est la vie. Je me reprends aujourd'hui, enfin, je pensais me reprendre parce que j'étais sûre. Il a été tellement prolifique, Victor Lévy-Beaulieu, que je me suis dit, je vais forcément trouver quelque chose en livre audio, Nothing. Là encore, si vous avez quelque chose, si vous tombez sur quelque chose, moi là, j'ai fait des recherches, on va mettre Mathieu, tiens, sur le coup. Nous, en attendant, remontons jusqu'à Trois Pistoles pour rendre également hommage à Victor Lévy-Beaulieu. On va retrouver Dany Laferrière, qui cette fois-ci va s'exprimer au sujet de la littérature de VLB, et qui va nous dire tout le bien qu'il pense encore de ce fou furieux dans le sens positif du terme que nous avons perdu, qu'on n'a peut-être pas célébré suffisamment comme on aurait pu le faire parce que c'était un autre de nos génies, exactement comme l'est peut-être Fred Pellerin en Mauricie, mais je pense que dans le coin de Trois Pistoles, eh bien VLB était certainement, mais aurait mérité, je pense, autre chose comme hommage que le peu qui lui a été accordé, mais ça n'engage que moi, mais je m'engage dans cette direction-là et je n'ai aucune peur de le dire dans ce podcast. Alors, extrait d'entrevue tiré de Vendredi Lecture et extrait de Dessine-moi un matin, animé par Franco Nuovo sur les ondes d'ici Radio-Canada Première. Alors, VLB, donc Dany Laferrière nous parle de cette grande passion pour VLB.
C'est le premier, c'est les grands-pères que j'ai lus en arrivant à Montréal. Et j'ai trouvé ce livre fabuleux, légèrement un peu guindé, il n'était pas encore devenu totalement fou, et dans la bonne notion du mot. Mais quand même, c'est un livre dense, c'est un livre original. Et plus tard, je l'ai suivi parce que je trouvais que c'était le plus important à mes yeux.
Victor Lévy-Beaulieu. Victor, je crois, n'est pas de lui, je ne suis pas sûr. Ça doit être une référence à Victor Hugo, il l'a dit assez de fois. Lévy, je ne crois pas que ce soit de lui, puisque Lévy, c'est peut-être un désir un peu surréaliste d'être juif. Beaulieu, ça doit être lui. Et parce qu'il est du Québec. Alors, Victor Lévy-Beaulieu, sans doute l'écrivain québécois le plus prolifique. 82 livres. Il a commencé tout jeune à 17 ans et il a publié un livre, Tigeant dans sa nuit, et c'était parti. C'était parti pour la plus longue et peut-être la plus belle traversée de la littérature québécoise. Une traversée qui comprend des romans, comme « Les grands-pères », qui est le premier livre que j'ai lu en arrivant au Québec, qui est un livre qui m'a frappé par sa densité, par sa force, par son américanité, en même temps que c'est très implanté dans la culture québécoise. Et viendront par la suite ses grands livres aussi, comme « La nuit de Malcolm Maude » et d'autres livres, beaucoup de romans, des essais. Beaucoup d'essais, c'est un pamphlétaire aussi, il aime bien intervenir dans la société, et il aime tonitruer, il aime secouer la jeunesse aussi, et pour leur expliquer que quand même, la littérature ne s'arrête pas à leur nombril, et il a pris des gifles en retour aussi, parce que les jeunes sont assez impertinents, mais il aime bien ça, l'impertinence. Et il a un style très fluide, et qui va atteindre son sommet dans la série des essais qu'il a fait. Que l'écrivain québécois, le plus québécois, si l'on peut dire, Il est attaché à sa terre. Il veut l'indépendance du Québec. Et il croit dans le ciel québécois, dans la terre québécoise, dans les oiseaux québécois, dans les arbres québécois. Un peu et comme Gaston Miron, que l'écrivain le plus patriote, le plus nationaliste, le plus québécois, soit aussi en même temps le plus universel. Il a écrit aussi sur Hugo, naturellement, puisque c'est son mentor, c'est le grand rêve de sa vie, c'est l'ambition démesurée, rabelaisienne, et d'être un Hugo en Amérique. Il a écrit sur Melville, pour moi, peut-être le plus grand livre jamais écrit au Québec. Les trois tomes de Melville, je me souviens les avoir lus dans ma baignoire, et peut-être 3 ou 4 ans après mon arrivée au Québec, ou peut-être un peu plus ou un peu moins, et c'est fabuleux. L'écriture, la souplesse de l'écriture, et tout cela nous dit qu'on a affaire à un grand styliste, un grand prosateur, et un poète, et quelque part un vrai romancier, parce qu'il a l'habitude, malgré le fait qu'il parle de Melville, ce désir fou de tout ramener à son nombril, contrairement à ceux qui pensent que leur nombril, c'est ce qui se trouve au centre de leur corps, pour lui, son nombril, c'est le Québec. Il ramène tout et en fait un récit québécois.
Oui, j'ai demandé, donc, et mon ami Mathieu m'a confirmé qu'il n'y a pas de Victor Lévy-Beaulieu en audio, du moins pas en audio commercial, ni même au SQLA, ni à CAEB, je pense. Mais il y en a, par contre, si vous, des fois vous êtes inscrit à la bibliothèque de Valentin Ahuy, qui est la bibliothèque francophone, en fait, qui est ce qu'on appelle la magnétothèque, où vous pouvez aussi, vous, personne à besoin particulier, vous faire venir des livres. Un petit extrait de M. Melville dont parlait l'ami Dany Laferrière, Monsieur Melville de VLB. Père dit, qu'est-ce que tu as regardé comme ça droit devant toi? Ôte-toi l'idée que je suis un fantôme, parce que ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Je marche derrière lui dans le corridor. La cuisine est à l'autre bout, de même que la table de pommier et mon épais manuscrit. Vais-je seulement m'y retrouver? Je tire la chaise, puis m'assois. Lorsque je mets la main sur le paquet de feuilles, je me sens tout drôle, comme incapable de me mettre à écrire, impuissant face à ce que j'ai laissé monter en moi parce que je suis fatiguée. Et que je sais bien que ce livre sur Melville est comme tous les autres que j'ai écrits avant lui, c'est-à-dire lamentable, parce que plein de fissures. À quoi bon alors? Ne devrais-je pas plutôt faire venir la mort de père et écrire cet acte manqué que seront ses funérailles? La tribu, enfin rassemblée, de Dublin, de Californie, de Floride et de tous les pays québécois pour mettre un terme au passé, pour en briser la mémoire et me faire comprendre que mon œuvre est vaine, ainsi que le prétendait Joe. Mon pauvre Abel, quand sauras-tu enfin que l'épopée ne s'écrit pas parce que tout simplement ça se vit? Je regarde père qui s'est assis sur cette chaise en face de moi, les yeux fixés sur mon manuscrit. Il devine que je suis mal pris, que je ne sais plus quoi faire de ce livre sur Melville à cause de sa seule présence qui me culpabilise, m'appelle ailleurs dans ce pays terrorisé que par l'écriture j'ai mis en marche et dont par Melville j'ai voulu m'échapper. Il dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je dis « Aide-moi, père. Ne reste pas ici ce matin. Pour continuer, il faut que je sois seul. » Il dit « Ne crois-tu pas que tu m'en demandes trop ?» Je dis, c'est absurde, je le sais bien, mais c'est comme ça. De savoir que tu attends que je finisse, cela m'enlève tous mes moyens. Tant qu'à y être, j'aimerais mieux n'avoir jamais commencé ce livre. Il dit, ce n'est pas ton livre qui est en cause, mais la mauvaise nuit que tu as passée. Je te l'ai dit, il me semble. Vois donc les choses comme elles sont. Je dis, il ne s'agit pas de cela. Il dit, alors, il s'agit de rien. N'en parlons plus. « ces quelques notes qui accompagnent la fin de la chanson d'Évangeline vont nous faire poursuivre et finir ce chemin, ce bout de route en livre audio jusqu'en Acadie. Cette Acadie où Pélagie et les siens retournent après en avoir été exclus. Pélagie, l'Évangeline d'Antonine Maillet. En mémoire d'Antonine Maillet, que j'ai reçu deux fois à des livres pleins les oreilles et dont le bleu des yeux, aussi vif que le cœur et l'esprit, vont m'habiter encore longtemps, eh bien on va entendre un extrait de Pélagie la Charrette. Et j'ai choisi un extrait du livre lu par Antonine. Ça c'est sur YouTube, donc c'est accessible à tout le monde. Pour ceux qui trouvent que ça ne sonne mais alors vraiment pas année 2025, il en existe une version à la sonorité de bien meilleure qualité. C'est sur le catalogue audio de Radio-Canada. Ça a été enregistré en 2024 et c'est lu par Diane Lausier. Bien lu d'ailleurs, c'est assez agréable à entendre. Mais personnellement, j'aime mieux réentendre la voix de Madame Antonine Maillet sur son texte, même si ça gratte un petit peu. Et puis surtout, j'adore que ce soit elle qui nous présente cet immense projet que fut ce livre, Pélagie la Charrette.
Les productions de La Tour présentent Pélagie la Charrette d'Antonine Maillet, lu par Antonine Maillet. Quand j'ai eu 10 ans, j'avais 10 ans le 10 de mai, donc on m'a dit, puisque tu as 10 ans le 10, tu as le droit de faire un vœu. Et ça va se réaliser, tu vas faire un souhait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais souhaiter, que ça va durer toute ma vie, parce qu'une seule fois dans ma vie, j'ai le droit de faire ce vœu-là. Et j'ai fait le souhait qu'un jour, je rentrerai dans mon village et qu'on me fêterait pour avoir réécrit l'histoire d'Évangeline. Parce qu'Évangeline avait été écrite par un Américain et ça, ça me révoltait. Il fallait qu'on écrive nous-mêmes notre histoire. Et c'est comme ça que je suis venue à l'histoire de Pélagie, qui est au fond est une nouvelle Évangeline, est une Évangeline 2, mais une Évangeline faite par nous. Sauf que bien sûr, je n'allais pas l'appeler Évangeline. Et bien sûr, je n'allais pas faire l'histoire qu'avait fait Longfellow. Et d'après mon tempérament à moi, qui suis beaucoup plus optimiste, je ne peux pas me résoudre à écrire des histoires où on massacre. Je n'allais pas faire la déportation. Alors j'ai fait le retour, qui est la montée vers quelque chose. C'est le retour au pays, c'est la renaissance du peuple acadien au lieu d'être sa destruction. Et c'est comme ça que j'ai bâti petit à petit l'histoire de Pélagie. Mais quand je l'ai commencé, je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais qu'il y aurait Pélagie, je savais qu'il y avait Belloni qui était le conteur qui nous racontait ça. Il fallait une résonance, une distance, n'est-ce pas? Ça devenait de la petite histoire au lieu de la grande histoire. Au lieu d'être un historien, j'étais un chroniqueur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train d'écrire une épopée. Mais aujourd'hui, je me rends compte que probablement la vraie raison pourquoi j'ai écrit Pélagie, c'est que sans Pélagie, je n'existerais pas. Parce que c'est elle qui a fait naître la nouvelle Acadie. Je lui dois la vie. Eh bien, en retour, je lui donne la vie. Belloni, le premier du lignage des Belloni à sortir du grand dérangement, était déjà un vieillard épluché quand la charrette se mit en branle. Et il déchiffra pour les jeunesses qui montaient à bord la légende de la charrette de la mort. Il l'avait vue de près tant et tant de fois. Entendu, Belloni, entendu, car personne jamais n'a vu ce sombre fourgon, sans portière ni fanaux, tiré par 6 chevaux flambant noirs. Une charrette qui parcourait le monde depuis le commencement des temps. Si personne l'a donc vue, comment c'est qu'on sait qu'elle est noire, votre charrette? Tout le monde connaît le diable encorné et la charrette fantôme, noire, sans portière, tirée par 3 paires de chevaux. Voilà. Et qu'on n'en parle plus. D'accord, qu'on n'en parle plus. Mais Pélagie savait qui en reparlerait le premier. Et à coup de « hu, dia », elle remit les bœufs en marche. La charrette de la mort pouvait s'aller embourber dans les marais de Georgie. Elle, Pélagie, conduirait les siens dans la charrette de la vie. Embarque, Célina, et prête point attention au radoteux. Célina garocha sa besace sur les genoux du radoteux et enfourcha la ridelle. « Tu m'avertiras quand ce sera mon tour de marcher, Pélagie. Je suis point plus décrépite qu'un autre. »« Point plus décrépite, non? Juste un brin plus clopeuse? Mais Bélonie dit ça sans dire un mot et sans cesser de sourire de toutes ses brèches à Célina qui épluchait sa pensée jusqu'au cœur. Fallait qu'on l'amenait à tout dresse, là. Fallait. On ne laisse pas seul en Georgie un vieillard qui approche 100 ans et qui n'a plus ni famille ni parenté parmi les vivants. Pélagie n'aurait pas eu le cœur de laisser derrière le doyen des déportés, même s'il devait traîner avec lui jusqu'à la Grand Pré sa charrette fantôme. Il la traînera, je le connais, que renchérit Célina, pourvu qu'il se mette point en tête d'y atteler nos bœufs. Bien le bonjour, jeunes gens, dérangez-vous pas pour moi.
C'est exactement ce que je vais vous dire là. Bien le bonjour, bonnes gens, dérangez-vous pas pour moi, je vais m'en retourner dans mes pénates et vous concocter un autre balado consacré aux livres audio. C'est la mission que je donne à Des livres plein les oreilles depuis maintenant 11 ans. Je pense qu'on entame la 11e saison. Si vous voulez m'envoyer un petit mot, bien je vous invite à venir me rejoindre sur la page Des livres plein les oreilles. Sur Facebook. Je vais répondre à vos messages avec grand plaisir. Merci à Mathieu qui m'a déjà blâmé moi, Mathieu Tessier, c'est à quelle horreur, qui m'a aidé encore une fois dans cette émission. Et puis j'espère que ce voyage au travers des mots d'auteurs québécois sur les routes du Québec vous a plu. Moi j'ai eu un plaisir fou à parcourir ces kilomètres avec vous. Alors à bientôt.